On pourrait dire que Jésus, comme personnage conceptuel, il nomme et il cristallise cette époque et cette hystérie. Il faudrait être un spécialiste des langues dans lesquelles les textes anciens ont été écrits. Il faudrait connaître l'araméen, ce qui n'est évidemment pas mon cas, mais quand on s'appuie sur l'étymologie, on s'aperçoit que le texte est vraiment très codé. Il est hyper codé. Jésus, très précisément, ça veut dire « Dieu sauve, a sauvé et sauvera ». Il faut savoir donc que le nom dit déjà assez et que, d'une certaine manière, l'histoire est écrite et qu'il réalise cette histoire. Jésus, elle est déjà écrite dans l'Ancien Testament et Jésus, il arrive pour réaliser cette histoire qui est déjà annoncée. On n'a pas une conception matérialiste comme aujourd'hui qui supposerait que l'histoire, ça se fabrique et ça se fabrique avec le désir et le vouloir des hommes. On considère que l'histoire, elle est déjà écrite par Dieu et par les prophètes et que des prophètes sont là pour réaliser ce qui est déjà dans le texte. Ce que je propose, pour essayer de voir comment fonctionne la Bible, le Nouveau Testament, et comment se fabrique cette hypothèse chrétienne, c'est d'aborder les textes sacrés comme des textes païens. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça ne s'est pas beaucoup fait. L'idée qu'on puisse considérer les textes comme le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les évangiles apocryphes, les écrits intertestamentaires, comme l'Iliade et l'Odyssée, comme Plaute et Terence, comme Platon, c'est une idée avec laquelle on fait beaucoup de chemin si on l'utilise. La Pléiade, par exemple, vous savez, cette édition prestigieuse de Gallimard, a des reliures qui sont réservées à des siècles. Il y a une reliure verte qui est réservée à l'Antiquité. Et singulièrement, il y a une reliure grise pour les textes sacrés. Le Coran est relié en gris, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament également. Comme si on avait toujours cette incapacité à considérer que ce ne sont pas des textes révélés, mais ce sont des textes historiques et qu'on peut aborder comme des textes historiques. Si on les aborde comme des textes historiques, ces textes sacrés, on découvre à ce moment-là que tous les topoi antiques, tous les trucs de l'Antiquité, si vous voulez, qui concernent le merveilleux, se retrouvent dans les textes testamentaires. L'histoire est fabriquée comme une grande histoire lyrique, et on va essayer de voir comment et de quelle manière, en mettant en perspective les textes de Diogène Laërce, par exemple, et le Nouveau Testament. Qui est l'auteur de Jésus? Parce qu'il y a un auteur de Jésus, il y a un individu qui, le premier, s'en vient fabriquer, nommer. Et ce premier individu qui nomme, il est suivi par d'autres qui se contentent de reprendre les histoires racontées par le premier et qui prennent pour vérité ce qui aura été dit par le premier. Le premier, c'est Marc, le premier des évangélistes. Et il écrit vers 70, après Jésus-Christ, à l'évidence. Hein. Donc il n'a pas connu Jésus. Aucun évangéliste, contrairement à ce qu'on peut imaginer a priori, aucun évangéliste n'a connu Jésus. Ni Marc, ni Matthieu, ni Luc, personne, ni Jean, n'a connu, n'a fréquenté, n'a approché Jésus. Il raconte des histoires qui ont été racontées par d'autres et qu'il rapporte même. C'est-à-dire que ce sont des transmissions orales qui se font à cette époque-là par ces individus-là. Marc n'a donc pas connu Jésus, il est probablement l'accompagnateur de Paul. On dira combien Paul de Tarse, Saint Paul, donc combien Paul de Tarse a créé d'une certaine manière le christianisme. C'est avec lui que le christianisme se crée véritablement, et puis une accélération ensuite avec l'empereur Constantin. Mais Marc est le premier qui fabrique une histoire qui est reprise absolument par les autres. Ça n'empêchera que les autres prendront dans des époques différentes et dans des perspectives différentes et commettront un certain nombre d'erreurs. On verra, on en prendra deux ou trois tout à l'heure pour voir lesquelles. Ce texte-là, il est fait pour convertir, c'est-à-dire les évangiles, ce sont des textes de propagande. Il s'agit d'avoir des histoires à raconter à des gens qu'on s'en va voir partout dans le bassin méditerranéen et qui sont croyants, ils croient à des religions antiques, à des vieux dieux païens. Et ces vieux dieux païens, il faut les remplacer par le dieu unique, le dieu du monothéisme et le dieu des juifs qui devient le dieu des chrétiens. Donc il s'agit de convertir des gens qui sont des marchands de poissons, qui sont des charpentiers, qui sont des gens modestes, qui sont des petites gens, des gens du peuple, et il faut leur raconter des histoires qui soient susceptibles de les amener à la vérité des évangiles. Sur cet usage du merveilleux, à l'évidence, le merveilleux, ça marche. Si vous dites la vérité à des gens, si vous dites les choses simples à des gens simples, ça ne marchera pas forcément. Si vous voulez convertir, il vaut mieux présenter un individu singulier, magnifique, mirifique, capable de choses extraordinaires. Et le merveilleux dont l'Antiquité est capable, eh bien, c'est un merveilleux qu'on retrouve dans le texte des évangiles.